次录制这一次。l'émission d'info locale。
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est vous qui le dites, la quotidienne d'information locale et citoyenne sur le 101.1. Aujourd'hui, on retrouve Jessica Berthe. Jessica Berthe, c'est l'une des 7 organisatrices d'Astropolis, le festival qui se passe à Brest entre le 2 et le 5 juillet. Ça fait 13 ans qu'elle est chargée de communication pour le festival. Bonsoir Jessica.
Bonsoir.
L'émission d'aujourd'hui, elle portera sur les 30 ans du festival. On va discuter ensemble des changements, des artistes et des différentes thématiques qui entourent cet anniversaire. Je suis accompagné de Colin pour en parler. Bonsoir Colin.
Bonsoir.
Et justement, on fête cette année les 30 ans du festival. Mais avant d'en parler, retour aux origines. Comment Astropolis s'est-il créé ?
Alors Astropolis, moi j'ai pas connu cette époque, mais je connais l'histoire. C'est avant tout une bande de copains, de copines qui organisaient déjà des concerts pop dans la ville de Brest pendant leurs années étudiantes sur la ville. Et en fait, en 92, l'équipe a pris une petite claque à Rave aux Trans, qui était une rave organisée par l'équipe des Trans Musicales en 92, où ils ont découvert Underground Resistance, donc vraiment les fondateurs de la techno de Détroit. Ils ont vraiment pris leur claque par rapport à la configuration qui cassait tous les codes qu'on connaissait dans la musique. C'était vraiment l'arrivée d'un genre tout nouveau, avec d'autres codes, d'autres manières de danser, d'autres manières de voir des artistes sur scène, où justement la scène importait peu et tout se passait plutôt sur le dance floor et dans l'échange. Et c'est comme ça que Astropolis est né. C'est une première rave qui a été organisée dans le Nord Finistère, dans un champ à Kern-Ouest, près de l'Esnevin. Un festival avec 3 chapiteaux et à peu près 1200 personnes. Et donc c'était une rave illégale à l'époque puisque c'était en pleine répression par le ministre de l'Intérieur qui était Charles Pasqua, qui avait édité une circulaire pour vraiment casser le mouvement et stigmatiser cette population. Chose qu'on retrouve un peu aujourd'hui, complètement aujourd'hui avec la loi Riposte par exemple, qui s'en prend aux fêtes libres et aux free parties.
Moi, j'avais une question. Donc, vous venez de le dire, au début, c'était plus des raves, même illégales. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec aujourd'hui. Mais en soi, qu'est-ce qui a le plus changé par rapport au début, l'ambiance, comment ça se passe ?
Dans l'état d'esprit et dans l'ambiance, on dirait que ça n'a peut-être pas tant que ça a changé parce que ça reste l'idée d'une même fête où tout le monde est le bienvenu, où on essaye de prendre soin les uns les unes des autres. Et d'avoir vraiment ce moment de lâcher prise, cette bulle de liberté, c'est un peu tout ça qui est aux origines de la rave et de respecter certaines valeurs humaines et tout ça. Ce qui a plus changé, c'est vraiment sur l'accueil du public, la structuration, la manière de faire aussi avec les autorités, les pouvoirs publics. Et c'est vrai que les choses se font beaucoup plus main dans la main aujourd'hui quand même avec les institutions. Nous, on a la chance d'être sur un territoire qui nous soutient quand même. Je pense à la ville de Brest, à la région Bretagne. Les choses sont, un petit peu institutionnalisées quand même. Et puis, les musiques électroniques sont beaucoup plus populaires aussi. Elles sont moins stigmatisées. Il y a tout ça qui a changé aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'aussi en termes d'accueil par rapport au public, on est quand même sur un confort d'accueil aussi qui s'est amélioré. Et aussi des prises de conscience. Peut-être qu'il y en avait moins besoin, peut-être à une époque, mais c'est sûr que. Ou alors que c'est sûr que les langues ne se déliaient pas. Mais oui, je pense aussi à toute la prise en charge de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui s'est établie, on va dire, dans les 6 dernières années. Donc il y a un peu tout ça qui a changé aussi.
Okay. Donc ça a quand même bien évolué, mais il y a quand même toujours cette ambiance qui reste dans le festival. D'accord. Et le public, lui, est-ce qu'il a changé ? Est-ce qu'il a évolué ?
Il y a des nouvelles générations, c'est sûr, à chaque fois, le festival a fidélisé des nouvelles générations d'année en année. Mais ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que justement, avec la longévité d'Astropolis, on retrouve vraiment certaines personnes qui sont là depuis les débuts Et ce qui fait un peu la particularité d'Astro, c'est qu'on retrouve vraiment ce mélange multigénérationnel où on a autant de personnes de moins de 25 ans que de personnes de plus de 45 ans. Et c'est ça aussi qui fait un peu sa force et son ambiance très particulière.
Okay. Donc on est quand même resté dans un esprit électro, mais avec des nouvelles influences, c'est ça ?
Au niveau des musiques électroniques, après, on va dire que c'est un peu un cycle. On va dire que ce qui se fait actuellement dans les musiques électroniques a toujours en fait un regard dans le passé, et c'est un peu un truc dans la musique électronique de toujours prendre en compte un peu l'héritage, les origines de cette musique-là pour produire des nouvelles choses. C'est sûr que ça a pas mal évolué, mais voilà, l'ADN d'Astropolis depuis les débuts, ça a toujours été de représenter les musiques électroniques dans un spectre assez large, sans jamais être bloqué sur un seul style. Donc on retrouve aussi bien de la techno que de la house, que de la bass music, aujourd'hui un peu de hard techno aussi, des musiques plus expérimentales. On retrouve aussi un peu de pop, de rock, qui fait aussi clin d'œil au début d'Astropolis, et voilà, il y a vraiment cette ouverture d'esprit. Mais c'est sûr que la programmation, à chaque fois, elle est faite de manière à la fois représenter les pionniers, les pionnières de cette musique-là, mais aussi tous les artistes émergents, émergentes qu'on peut retrouver actuellement.
On va d'ailleurs écouter un titre qui représente vraiment l'ambiance du festival il y a 30 ans, comme aujourd'hui. Ça s'appelle Timeline Underground Resistance. C'est tout de suite sur Radio U. We'll be right back.
C'était Underground Resistance de Timeline. Vous êtes toujours sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites. Et on reprend tout de suite les questions. Vu les changements apportés au festival, comme l'ouverture du stand de dub, ce qui est une première, et les changements au niveau du château de Kerwal, quelles sont vos attentes pour cette édition? Est-ce que vous pensez que ce sera une réussite? Est-ce que vous pensez qu'elle sera meilleure que certaines années?
Bah, c'est vrai qu'un peu de changement, ça apporte toujours de la fraîcheur pour le public. C'est vrai qu'on a un public qui est assez fidèle. Je crois qu'on a, parmi les personnes qui achètent un billet, on a à peu près 30% de personnes qui sont jamais venues sur le festival. Donc on a quand même un public très très fidèle. Donc c'est vrai que ça fait du bien aussi de ne pas tout le temps avoir un copier-coller, des nouveaux aménagements d'une année sur l'autre. Et c'est vrai que là, la scène dub, depuis qu'on l'a annoncé, on n'arrête pas de nous en parler. On sent qu'il y a une vraie excitation. Et puis c'est vrai qu'il y a il y a plein de petites choses en dub, en local, mais à cette échelle-là, il n'y a pas énormément c'est rarement proposé sur des grands festivals ou des choses comme ça, donc on sent que ça attire beaucoup de monde et que ça fait parler, donc c'est sûr que ça va apporter un peu de fraîcheur à tout ça, et puis c'est toujours chouette aussi d'avoir une nouvelle scène. Là pour le coup, la scène dub, elle est sonorisée par un collectif qui vient d'Angleterre et qui est ultra respecté sur la scène dub, voire musique électronique aussi dans toute l'Europe. Donc il y a une grosse attente là-dessus. Et puis il paraît que leur sound system, c'est vraiment une tuerie. Puis on aime bien aussi apporter des changements au niveau des décorations, des scénos. Là, on va réaménager un peu les scènes mécaniques et astroflore. On ouvre plutôt le site aussi à 18h cette année, alors que d'habitude, on l'ouvrait qu'à 22h. C'est vrai qu'on se disait que c'était peut-être un peu dommage d'avoir ce super site qui est le manoir de Kerwal, qui est niché dans le bois de Kerwal, qui a vraiment un beau lieu du patrimoine dans le coin. Et on pense que ça fera vraiment plaisir à beaucoup de gens de le découvrir sous le soleil. Et puis, c'est la 30e édition, donc on espère que ça va être forcément une édition plus marquante que d'autres aussi. On voit bien que y a des personnes qui sont peut-être pas venues ces dernières années et qui se réservaient un peu pour la 30e édition. Donc, grosse attente. On espère qu'on va décevoir personne.
Quand les festivaliers ils parlent de Astropolis, beaucoup ils disent qu'il y a une ambiance qui est vraiment particulière, qui n'est pas comme dans les autres festivals. Comment est-ce que vous la décririez?
Comme je le disais un peu au début, c'est vraiment ce truc de lâcher prise, de bulle de liberté, le fait qu'on soit un festival aussi, on ne met pas non plus 1000 signalétiques sur scène, on aime bien que les gens ils se perdent un peu, qu'ils cherchent un peu les infos, il y a beaucoup d'échanges, d'entraide dans le public, puis il y a aussi le territoire brestois qui fait beaucoup quand même. On est le seul gros festival de musique à Brest, avec une jauge d'à peu près 10 000 personnes. Et c'est vrai que on sent bien qu'il y a quand même une ambiance. Enfin, beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur nous disent qu'il y a quand même quelque chose de très particulier à Brest. Une ouverture d'esprit, un contact ultra facile. Donc c'est ça aussi qui fait vraiment la force et l'identité du festival. C'est aussi en partie le public.
Et donc le public, est-ce que vous avez parlé de Brest, il y en a forcément les Brestois sont très impliqués dans ce festival. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'international?
International un petit peu, du fait de la scène mécanique, qui est la scène hardcore programmée par Manuel Malin. Il y a une énorme scène hardcore aux Pays-Bas, et à Rotterdam notamment, et du coup il y a pas mal de hardcoreux qui font le déplacement. Il y a quelques personnes, c'est un peu anecdotique quand même, ça ne représente pas énormément de monde. Après, on a beaucoup de personnes de Paris, d'un peu toute la France, mais majoritairement quand même des gens du Finistère et de la Bretagne.
Vous le disiez tout à l'heure, chaque année, c'est jamais la même, il y a des nouveautés. Est-ce que chaque année, Astropolis, elle touche un plus grand public ou alors elle reste sur les mêmes...
Un public peut-être plus large au niveau des personnes qu'on touche et leur lien avec la musique électronique, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où les musiques électroniques étaient peut-être plus niche, moins connues du grand public. Et c'est vrai qu'il y avait peu de festivals musique électronique, il y a 10-15 ans. On était un peu un des seuls festivals dans le Grand Ouest à proposer ce genre-là. Donc on va dire qu'on avait peut-être un public plus spécialisé. Et qu'aujourd'hui, on a un public qui écoute des choses plus différentes, qui n'est pas forcément ultra spécialisé en musique électronique, mais qui vient vraiment pour l'ambiance, qui ne sait pas forcément ce qu'il va écouter, ce qu'il va voir, mais qui est là parce qu'il sait qu'il retrouvera une ambiance particulière sur Astropolis. Et après, en termes de jauge, bah, on est quand même sur la même chose d'année en année. Je dirais même au contraire, par rapport à il y a une dizaine d'années, la fréquentation est quand même un peu en baisse parce que bah, y a énormément de propositions aujourd'hui, beaucoup de concurrence et du coup, bah, c'est plus compliqué. Et puis, il y a l'inflation, la crise économique qui passe par là, forcément. Donc, voilà.
Il y a quelques artistes internationaux dans le festival. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir des artistes internationaux ?
Oui, parce que bah, ce qu'on aime bien, c'est raconter justement un peu l'histoire des musiques électroniques, proposer un peu une cartographie du mouvement, du genre à l'instant T. Et c'est important de représenter, voilà, il y a les scènes de Londres, de Berlin, d'autres scènes plus... on va dire, enfin, qu'on a vraiment envie de mettre en avant, des fois avec des artistes du Brésil ou autres. Donc, c'est vraiment important, oui, d'inviter ces artistes-là parce que justement, ça raconte une identité des musiques électroniques qui est chouette de présenter à notre public et à la fois, bien sûr, de représenter aussi les artistes du territoire.
De tout le festival, c'est quoi la line-up d'artistes préférés que vous avez
au sein de l'équipe ou moi personnellement ?
Vous personnellement.
Je crois que j'avais beaucoup aimé 2017. C'était vraiment... Il y avait beaucoup d'artistes ouais, qu'on avait tous envie de voir. Il y avait Jeff Mills, Floating Points, Hawks 88. Je me souviens que c'était vraiment une édition assez marquante en termes d'artistique.
Maintenant, je vous propose qu'on écoute le son AG de Sinae qui est sorti hier. C'est tout de suite sur Radio U. Bonne écoute. We'll be right back.
De retour sur Radio U au 101.1, on vient d'écouter Sinae AG, donc qui vient de sortir hier sur le label Dome. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, mais qu'est-ce que vous appréciez dans ce titre ?
J'aime bien le côté vraiment original de l'hyperpop. Et puis, ça croise vraiment plein d'esthétiques différentes qui vont piocher dans des codes pop et à la fois électroniques. Et puis vraiment ce truc de tirer un peu au maximum les styles, enfin ce côté un peu de tirer à son paroxysme chaque style en fait pour un son que je trouve vraiment très original.
On va parler de votre métier maintenant, donc vous êtes chargée de communication.
Ouais.
Et justement, comment est-ce qu'on communique à un événement comme Astropolis ?
De plusieurs manières. Il y a un peu, on va dire, les supports traditionnels qui sont affichage, support print et tout ça. Et le côté réseaux sociaux qui est vraiment devenu essentiel et qui prend, je pense, le plus de temps. Parce que voilà, il y a tout, on va dire, le côté vidéo, montage, photo. Enfin, c'est vraiment un boulot très, très dense aujourd'hui de gérer les réseaux sociaux d'un festival. Et à la fois aussi la partie média de travailler avec des médias pour faire en sorte que le festival rayonne un peu, que les artistes soient visibles aussi et pouvoir faire passer certains messages.
Donc là vous venez de parler des réseaux sociaux, que c'était vraiment important pour avoir de la visibilité. Et de l'affichage, est-ce que l'affichage, il reste encore important ? Est-ce qu'il attire du monde ou ça va disparaître ?
Il y avait eu un peu ce sentiment-là. C'est juste que je pense que les quantités ont peut-être un peu plus été réduites. Mais de notre côté, on a quand même été toujours rationnels sur les quantités. Du coup, au final, nous, en 15 ans, là, il n'y a pas eu énormément d'évolution sur le nombre de supports imprimés. C'est hyper important d'avoir quand même ce rappel visuel dans la rue et de s'inviter un peu dans l'espace du quotidien. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on n'est pas tout seul. Enfin, y a 10 000 contenus qui sont affichés sur le téléphone de quelqu'un sur une semaine. Et on se fait oublier assez facilement au final. Du coup, c'est hyper important d'avoir un peu ce rappel. Et puis de mettre en avant aussi le travail chaque année de la personne qui illustre notre affiche. Pour nous, c'est vraiment à chaque fois, tous les ans, un choix hyper difficile et plein d'échanges pour arriver à un résultat qui nous convienne à tous. Et c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant aussi, le côté visuel dans la rue. Donc c'est très bien. Et puis c'est vrai que les supports papier, c'est chouette aussi, c'est facile à prendre en main. Pour résumer le programme, avoir une info, c'est quand même un support encore très, très pratique.
Et donc, quelle image vous souhaitez transmettre de cette édition 2026 ?
Toujours un peu les fondamentaux, les valeurs qui animent l'association depuis ses débuts, qui sont le partage, la rencontre, le fait d'être ensemble, la découverte. Et puis, je vous précise aussi qu'on est un festival indépendant et que il y a un peu cette proximité, on va dire, avec le public et ces valeurs qu'on défend, qui vont être très importantes dans l'année qui va venir. Donc voilà un peu le message qu'on souhaite faire passer.
Pour vous, quelle scène ou quel instant va le mieux résumer Astropolis ?
C'est souvent quand même la scène de la cour dans le manoir de Kerwal, qui est un peu la carte de visite mythique d'Astropolis, parce que il y a cette belle scène qui est nichée entre les pierres du manoir de Kerwal. On a la chance de faire la fête dans un lieu qui est super beau. Tous les dimanches matins à 7h, le festival s'arrête. On a une super belle image avec le jour qui se lève, les gens qui ont passé un super moment, qui ont du mal à quitter le site. Donc c'est un peu cette scène-là qui résume le mieux l'ambiance du festival. Il y a toujours une énergie assez incroyable sur cette scène.
Surtout le festival, il y a beaucoup de lieux différents en soi. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer sur chacun des lieux ?
Au-delà du manoir de Kerwal, on investit aussi un peu tout Brest. On a le samedi après-midi beaucoup d'open air qui sont organisés, notamment au Jardin Kennedy, au Square Beautemps-Beaupré, des shows sur la terrasse du Vauban, à la Carène. Cette envie aussi de faire profiter le festival au plus grand nombre, donc d'avoir plein d'événements gratuits. Et pour ça, la ville nous aide beaucoup. Et puis, il y aura aussi des soirées en club, donc à la suite, au Vauban, sur des plus petites capacités pour les personnes qui veulent vraiment avoir 2 ou 3 jours de festival. Il y a vraiment tout un programme sur le week-end. Il y a aussi des convois à vélo avec un sound system mobile, où on peut aller d'un lieu à un autre à vélo en s'ambiançant sur le trajet.
On l'a dit tout à l'heure, c'est l'anniversaire des 30 ans du festival. Est-ce que ça va être présent dans le festival ?
C'est présent du coup avec tous les changements que j'ai évoqués tout à l'heure, donc l'ouverture du site du manoir de Kerroual à 18h, la nouvelle scène d'Up Corner, les scénographies qui changent sur des scènes. On retrouvera aussi toutes les anciennes affiches au manoir de Kerroual qui seront en grand format un peu partout sur site. On aura aussi des petites surprises nouvelles. Alors, il y a déjà la roue, les autotamponneuses. On aura aussi un petit karaoké en début de soirée, des fripes. Il y aura aussi un petit pot inaugural à la carène à 17h30 sur l'Astro Cocktail, où il y aura des petites prises de parole de la part de Gilda, qui est l'un des cofondateurs, la Carène, et aussi nos partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure, donc la région, la DRAC, la ville de Brest. Et il y a aussi un Sonic Mystery Tour, qui est un petit road trip en 4 étapes, qui reste mystérieux sur ses étapes et sur son contenu, mais il y aura des anecdotes, des DJ sets. Ça se passe le vendredi de 13h à 23h, donc c'est un peu un petit kidnapping pour faire un petit voyage dans les origines en fait d'Astropolis, c'est-à-dire ce qui a précédé le festival. Et donc il reste de la place pour s'inscrire, c'est 25€, et ça se réserve sur notre site internet, et ça a lieu le vendredi 3 juillet.
Eh ben, merci beaucoup, Jessica, d'avoir été avec nous pour revenir sur les 30 ans d'Astropolis.
Merci à vous.
Et merci à vous de nous avoir suivis. Est-ce que vous voulez juste rajouter quelque chose ou dire quelque chose aux auditeurs ?
J'espère que vous serez nombreuses à venir fêter cet anniversaire avec nous. Et on a vraiment hyper hâte à la semaine prochaine.
D'accord. Eh ben, allez voir Astropolis à Brest du 2 au 5 juillet. Il y a de l'électro, de la dub, il y a de la tech. C'est bonne ambiance. Bon été sur Radio U.
Radio U,
Radio U,
101.fm à Brest.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane, la coordinatrice d'antenne de Radio U. J'ai oublié de dire aux stagiaires, donc je l'ajoute au montage, la chronique d'une de nos plus jeunes bénévoles sur la Coupe du Monde 2026. Voici la chronique de Zoé. Bonne écoute et je vous souhaite aussi un bel été. La quotidienne reprendra courant septembre. On vous tient au courant.
En phase de poule, la France devra parcourir 500 km, alors que son compatriote européen, la Bosnie-Herzégovine, devra en faire plus de 5000. Et si l'une des plus grandes inégalités de ce mondial était géographique. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les 48 équipes sont réparties dans 3 pays, 16 villes, 4 fuseaux horaires différents. En tout, plus de 3500 km séparent Miami et Vancouver, les deux points les plus éloignés du tournoi. S'ajoute à cela une variation d'altitude de 2200 mètres entre Atlanta et Mexico. Ce désavantage entre les pays est d'autant plus inquiétant lorsqu'il apparaît au sein même des poules. Peut-on vraiment parler d'égalité des chances lorsque l'Argentine doit parcourir près de 700 km, tandis que l'Algérie parcourra, elle, 5000 km. Pourtant, ce n'est pas une spéculation. Ces déplacements à répétition ont bien un coût pour les athlètes. D'après une étude de 25 000 matchs publiée par Tyler & Francis, les sportifs traversant des fuseaux horaires subissent une dégradation non négligeable de leur performance. Cette étude a montré que la vitesse du sprint diminue de 4 à 8% dans les 48 heures suivant un voyage significatif. Aussi, la susceptibilité aux blessures augmente dans les premières heures suivant un vol long courrier. Mais ce n'est pas tout. Cette inégalité se remarque lors des variations climatiques. Certains athlètes performeront à 40 degrés à Miami. Dans le même temps, d'autres joueront sous les 17 degrés de Vancouver. Alors que la médecine du sport révèle qu'au-delà de 32 degrés, un risque majeur de coups de chaleur est présent, dans les cas les plus graves, cela peut entraîner un décès. Bien qu'ils soient des athlètes, les joueurs ne sont pas au-dessus de la nature. Vous pouvez vous demander, logiquement, que fait la FIFA ? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est que les trois pays hôtes jouent chacun dans leur pays pendant les poules, que les matchs dans les pays les plus chauds commencent plus tard en soirée, et que les matchs de poules ont été le plus possible regroupés par région pour limiter les transports internationaux. Et encore, ça, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas, ni satisfaisant. À la place, les experts auraient suggéré d'instaurer des protocoles d'acclimatation à l'altitude ou des seuils de température à respecter, voire simplement d'ajuster les calendriers et de rajouter des jours de repos entre les matchs. Les équipes elles-mêmes le disent à haute voix. Le fardeau des déplacements et des températures n'est pas passé inaperçu auprès des participants. Dans le pire des cas, si l'Espagne atteint la finale, son parcours total dans le tournoi est projeté à 12 600 km. Pour conclure, nous pouvons aussi brandir un carton rouge écologique. D'après le journal Le Monde, en seulement 5 semaines de compétition, cette Coupe du Monde devrait générer 9 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent d'un pays comme Chypre par an. Malgré tout, on espère que les Bleus arriveront à se hisser jusqu'en finale.